Moi, j'ai écrit ce livre, en fait, tout simplement pour réagir à des non-arguments. Et je sais qu'aujourd'hui, il y aura des vrais arguments de part et d'autre. Mais ce qui m'avait frappé, c'était que la plupart des partisans de la Turquie dans l'Europe nous disaient « Il faut que la Turquie rentre dans l'Europe, parce que nous avons une promesse à tenir, parce que nous avons des engagements, parce que nous devons prouver que nous ne sommes pas un club chrétien, et parce que nous devons montrer que nous ne sommes pas pour le choc des civilisations, et que nous ne voulons pas rejeter, exclure les Turcs, être racistes, bref, islamophobes. » Et je trouvais que quand on commence un débat en accusant l'autre d'être raciste, celui qui n'est pas d'accord avec vous, ou intolérant, ou anti-turc, ou anti... Je pense qu'on n'est pas dans un vrai débat, ce sont des arguments d'autorité. Et j'ai voulu faire un vrai livre de... Enfin, je pense pas que ça... c'est la septième merveille du monde, mais j'ai voulu faire un vrai livre relativement complet...
Non, c'est pas la septième merveille du monde, c'est très intéressant.
Voilà. Mais j'ai voulu faire un livre relativement complet qui aborde tous les arguments géopolitiques, le point de vue européen, le point de vue américain, le point de vue turc, le kémalisme aussi, tout à fait invoqué par les partisans de la Turquie en Europe,
le kémalisme qui est en train de disparaître.
Le kémalisme en deux mots. Qui est l'idéologie, pour moi, l'un des plus grands politiques du monde musulman, qui était Atatürk, qui était un laïc, qui était pour la sécularisation, qui c'est lui qui est le bâtisseur de la Turquie moderne. Et parmi les arguments des partisans de la Turquie dans l'Europe, je suis assez étonné qu'on invoque constamment le kémalisme d'Atatürk, vous savez, tous les lieux communs, la femme a voté 12 ans avant les Français, la constitution laïque de la Turquie, alors que tout cela disparaît. Oui, mais tout ce que veut Erdogan, c'est l'éradication du kémalisme et de tous les acquis d'Atatürk. Donc je suis assez étonné de voir que les mêmes partisans de la Turquie dans l'Europe qui ont littéralement adoubé Erdogan et sa réaction, sa volonté de réintroduire la polygamie, ils voulaient même pénaliser le flirt. Il y a quelques mois, j'étais en Turquie, j'ai vu les kémalistes turcs choqués par les propos d'Erdogan, qui est un islamiste authentique d'origine, même s'il joue au populiste un peu libéral, etc. Ça reste un populiste d'origine islamiste qui est fondamentalement islamiste du point de vue des mœurs. Et le nouveau code pénal également est un code liberticide qui empêche la liberté de presse. J'ai voulu montrer qu'il est paradoxal d'invoquer le kémalisme au moment même où la Turquie se dékémalise. Et c'est un processus qui a commencé dès Menderes, qui dans les années 50 avait réussi à gagner les élections et avait réintroduit déjà la réislamisation dans le pays. Faut savoir que la Turquie kémaliste que l'on invoque a cessé d'exister à partir de 46-50. Elle a duré sous Kemal et sous son successeur ONUNU. Mais depuis les années 50, la Turquie kémaliste est un mythe. Donc je suis étonné qu'on invoque un mythe et non pas une réalité. La réalité actuelle, c'est que la Turquie, c'est 70% de femmes voilées, c'est un ministère de la religion sunnite qui ne reconnaît pas les cultes divergents de ceux du sunnisme officiel, par exemple les alévis ne sont pas reconnus, c'est un pays qui ne donne aucune légalité juridique aux catholiques, c'est un pays où on enferme en prison des pasteurs protestants. J'ai voulu montrer que donc on n'est plus du tout dans une Turquie pluraliste qu'a voulu Atatürk, on est dans une nouvelle Turquie à la fois pan-turquiste, expansionniste, ultranationaliste, et on ne lui doit rien. Puisque la promesse de 63 n'a pas existé, la Turquie a formulé sa première candidature en 87 et non pas en 63. Et c'est la Turquie qui n'avait pas rempli les critères, on pourra en revenir, les fameux critères de 87 votés par le Parlement européen.